arrivez sur Radio Campus Tours, vous écoutez La Méridienne. Bienvenue si vous nous rejoignez. Aujourd'hui, mon invité dans le studio, c'est Kylian Stengel. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Alors, vous êtes ici dans le studio pour nous parler des 15e rencontres François Rabelais qui se tiendront du 22 au 23 novembre 2019. Elles sont organisées en grande partie par l'IEHCA. Est-ce que c'est bien ça ?
Tout à fait, c'est bien cela. L'IEHCA, l'Institut Européen d'Histoire et des Cultures de l'Alimentation, est une composante de l'université qui a pour vertu de valoriser tous les patrimoines et la dimension culturelle alimentaire.
Alors, une composante de l'Université de Tours, est-ce que vous voulez détailler plus précisément ce qu'est l'IEHCA ?
Bien sûr, c'est un organe qui est né à la suite d'un événement important sur la région qui s'appelle les rendez-vous de l'histoire à Blois en 2001. Ces rendez-vous avaient pour thème la notion de nourriture et les différents historiens de l'époque, les quelques historiens tournés vers l'histoire de l'alimentation, s'étaient dit pourquoi pas créer finalement une forme de réseau de chercheurs spécialisés sur ce sujet. En 2001, l'IEHCA est donc né sous la volonté du conseil régional et de la ville de Tours et sous le pilotage de Francis Chevrier, le directeur à la fois des rendez-vous de l'histoire et du futur IEHCA, Institut Européen d'Histoire et des Cultures et Alimentation. Au fil des années, cet institut a gagné une place et une légitimité régionale tout d'abord, et puis nationale voire européenne, en termes de recherche sur les sciences humaines autour du sujet alimentaire, avec une revue, une collection scientifique sur ce sujet, et puis des événements divers et variés, que ce soit des colloques purement scientifiques, ou des événements entre les deux, hein, tels que les rencontres François Rabelais, où ce sont des tables rondes qui mixent non seulement des universitaires, mais également des représentants des consommateurs ou des professionnels qui viennent évoquer un sujet de niche ou un sujet très large en le développant sur différentes tables rondes.
Voilà, il y a aussi tout un volet de formation. Merci.
Tout à fait, l'Institut profite aussi de cette collaboration très proche avec l'université pour accompagner la vie du master Histoire et Culture de l'Alimentation, qui depuis quelques années s'appelle le Master Culture et Patrimoine Immatériel Alimentaire. Et puis, cette collaboration maintenant est scindée avec le CESR, le Centre d'études supérieures de la Renaissance. D'autres diplômes ont vécu. On a eu pendant 8 ans un diplôme universitaire spécialisé sur le fromage patrimoine et culture, toujours avec cette vertu de vouloir présenter les sciences humaines de ce produit-là, fromager et des produits laitiers, ce qui a amené une collaboration aujourd'hui avec un grand événement local qui s'appelle le Mondial du fromage. Et puis on a collaboré à la création de diplômes autour du vin également avec le Vinopôle, ou de diplômes autour de la bière avec le réseau Passion Céréales.
Alors par exemple, quels étudiants peuvent suivre des formations qui ont existé ou existantes en lien avec l'IEHCA ?
Alors, quels étudiants aujourd'hui ont l'université, vous dirait que la formation c'est quelque chose qui se déroule tout au courant de la vie, hein, et il y a suffisamment de bureaux à l'université pour accueillir tout profil d'étudiants. Donc il n'y a pas de profil particulier pour le master Histoire des Cultures et l'Alimentation. Naturellement, il faut avoir malgré tout soit une licence, soit une forme de validation d'acquis, et de préférence, vu que le programme de formation de ce master est en grande partie tourné sur une dimension historique, mais il y a quand même aussi une grosse partie sociologique, anthropologique, économique, etc. Ceux qui ont un bagage historique ont plus de facilité finalement à suivre les cours, surtout en termes de méthodologie, mais malgré tout, il y a énormément de cours de méthodologie qui viennent asseoir et remplacer ceux qui n'auraient pas les prérequis.
Et ça débouche sur quel métier, en fait, ces formations autour de l'alimentation ?
Alors, différents métiers, vu qu'il y a différents diplômes, mais que celui qui est stipulé Master Histoire et Culture de l'Alimentation, lui permet de décliner des compétences en termes de médiation culturelle tournée vers l'alimentation, ou chargé de valoriser une marque quelquefois. Certains sont embauchés par des grandes enseignes, d'autres par des territoires pour valoriser la dimension gastronomique du territoire. Ben voilà, il y a des métiers à créer aussi qui viendront par l'avenir.
Donc on peut supposer peut-être tout ce qui est autour du tourisme, ça peut aussi être un débouché.
Tout à fait, quand je parle du territoire, naturellement, c'est inévitablement vers le tourisme, que ça soit directement les offices du tourisme ou la plupart du temps les métropoles, les mairies ou les communautés de communes qui sont en charge de valoriser leur espace territorial.
On peut supposer aussi que ça peut être dans toutes les structures qui valorisent la culture française à l'étranger.
Tout à fait, on peut penser naturellement aux espaces ministériels ou toute structure qui accompagne quelquefois les ministères pour valoriser la France à l'étranger. On a la SOPEXA par exemple, qui est un organe très connu pour valoriser la gastronomie et l'alimentation à travers le monde. Une ancienne étudiante de ce master travaille dans cet organe.
Voilà, l'alimentation, en tout cas la culture alimentaire, ça reste un soft power.
Ah, un soft power, j'espère, oui, et même plus que cela, avec l'inscription du repas gastronomique des Français à l'UNESCO, on voit bien qu'il y a une démarche de vouloir montrer que le concept du repas, ou de préparer son repas, de partager un repas, a pour vertu de vouloir être un geste d'humanité, de se rapprocher des autres, de concilier quelquefois des communautés. Au-delà du repas gastronomique des Français, on peut regarder des éléments inscrits à l'UNESCO par d'autres territoires, tels que le café, la préparation du café turc qui a réuni différentes communautés sur ce territoire, où actuellement il y a la République islamique d'Iran avec le Kazakhstan et bien d'autres pays encore autour qui réfléchissent à inscrire un élément de palof, un plat emblématique que l'on trouve sur ce territoire. Ils sont en bonne voie de réussir, étant donné que ça va vraiment dans la démarche de l'UNESCO de réunir des territoires, de faire un instant de paix grâce à un élément culturel, d'autant alimentaire, donc qui normalement fait plaisir à tout le monde.
Voilà, donc au-delà des historiens, des personnes intéressées par le tourisme, on peut penser aussi aux étudiants intéressés par la diplomatie.
Tout à fait, par la diplomatie, par l'anthropologie, par la sociologie, par l'économie, par la philosophie, par les sciences politiques, comme vous venez de le dire. Donc tous les étudiants qui cherchent finalement à trouver leur voie dans une discipline, peuvent la trouver grâce à l'alimentation, qui n'est pas une discipline universitaire, mais qui est pluridisciplinaire en soi.
Y a-t-il des étudiants justement étrangers qui viennent se former autour de l'UHCA ?
Naturellement, on a à longueur de temps des étudiants étrangers et naturellement ils sont les bienvenus, on est heureux de les avoir. Dans le master cette année, nous avons des personnes issues de Corée, des personnes issues de Russie, donc en fonction des années, naturellement ça varie. Et puis sans oublier naturellement les nombreux doctorants qui participent aux événements scientifiques en intervenant et qui ont pour certains un bureau finalement de présent au sein de la Villa Rabelais, le siège de l'Institut de l'Alimentation, des doctorants qui nous viennent du Japon, de Corée cette année, d'Israël. On avait une américaine qui était là depuis peu de temps et puis une québécoise.
Et alors ces étudiants internationaux, quels sont leurs sujets de recherche en fait ? Qu'est-ce qui les intéresse le plus souvent ? Parce qu'évidemment je suppose que ça varie énormément.
Mais... Ben voilà, c'est varié. Alors la coréenne, elle travaille justement sur l'élément que la Corée fait inscrire à l'UNESCO, le kimchi, le repas spécifique coréen. La japonaise actuelle, Yuka, travaille sur l'histoire d'un gastronome français qui s'appelait Grimaud de la Reynière au 19e siècle. Elle travaille sur les archives qui sont connues sur ce personnage pour montrer finalement la contextualisation de l'époque. Donc aucun rapport avec sa propre culture. L'israélienne, quant à elle, travaille sur le véganisme. Donc quelquefois, on a des étudiants qui franchement veulent mettre en évidence leur propre culture et d'autres qui travaillent soit sur un sujet français, soit sur quelque chose d'international.
Et on trouve aussi d'ailleurs sur le site de l'IUHCA un répertoire de chercheurs internationaux.
Donc là, oui. Tout à fait, car nous avons au mois de juin un événement qui s'appelle la Grande Convention et qui réunit énormément de chercheurs qui viennent de France principalement, mais vraiment du monde entier. Il y en a énormément qui viennent de l'étranger. À peu près la moitié des séances sont communiquées en langue anglaise. Et ces personnes viennent de toutes disciplines, sciences humaines essentiellement. On a quelquefois des sciences fondamentales également qui viennent s'exprimer durant cette convention. On a à peu près 250, 300 chercheurs qui viennent communiquer sur 2 jours, donc dans des sessions parallèles naturellement, et qui viennent communiquer sur toutes les franges de sujets que peut regrouper le mot alimentation.
Voilà, est-ce que ça a un rapport avec les universités d'été que vous proposez aussi ou
Alors,
c'est
l'université
encore autre
d'été,
chose?
c'est encore autre chose. Ça se déroule uniquement durant la dernière semaine du mois d'août où on accueille des doctorants qui sont plutôt dans leur dernière année ou avant-dernière année de préparation de thèse pour présenter leurs travaux à d'autres doctorants et à un petit groupe de chercheurs qu'on essaye de cibler sur les sujets de doctorat présentés cette année-là.
Voilà, donc je reviens un instant sur les publications que vous avez évoquées au début de cette émission. Il y a plusieurs collections, donc évidemment des publications universitaires, mais peut-être que vous avez une collection, je pense à l'inventaire en fait, qui est aussi tout public, enfin, qui est destiné à tout le monde.
Tout à fait. Alors, l'inventaire du patrimoine du patrimoine alimentaire régional a été effectué pour la région Centre par l'UHA, mais l'UHA n'en est pas à l'origine de cette collection. Hein. C'est une collection qui est née milieu des années 90, à l'époque où Jacques Lang faisait déjà acte de promouvoir l'alimentation et la gastronomie comme élément culturel. Il avait été créé le Conseil national des arts culinaires, présidé à l'époque par M. Sanderin, ce célèbre cuisinier étoilé Michelin de l'époque. Le Conseil national des arts culinaires, le CNAC, a disparu en 99, entre 1999 et 2001 pour des raisons financières et n'a pas pu finir de concrétiser cet inventaire régional, région par région, et qui était porté à chaque fois par le Conseil régional du territoire. Donc il restait, à notre époque, au XXIe siècle, il restait encore l'Auvergne, le conseil régional de la région Centre-Val de Loire et l'île de la Réunion. Donc l'Auvergne a décliné son inventaire dès le début du XXIe, et puis nous, il a fallu attendre 2009-2010 pour arriver à faire le nôtre, donné que c'est l'UHA qui a été porté pour faire cela à la demande du conseil régional. L'île de la Réunion n'est toujours pas faite en termes d'inventaire du patrimoine gastronomique.
À bons entendeurs, si quelqu'un souhaite se lancer, peut-être qu'on peut expliquer en quoi ça consiste plus précisément cet inventaire.
Naturellement. Le but est d'inventorier justement les différentes recettes emblématiques du territoire, enfin là d'une région administrative, et les produits aussi, et à chaque produit, une petite liste non exhaustive de certains producteurs. Alors, à chaque fois, à chaque recette, il y a un travail historique qui est effectué, un travail un peu ethnographique, étant donné qu'on essaye de voir si ce produit est reconnu comme un élément remarquable sur le territoire, le nombre de producteurs qui agissent encore sur ce type de produit, le nombre de consommateurs, pardon, les consommateurs les plus avertis qui peuvent avoir envie de s'informer sur ce produit, et puis s'il y a des acteurs en charge de la promotion, on peut penser à des confréries quelquefois qui sont en charge de la promotion de cette recette ou ce dit produit. Alors sur notre territoire, naturellement, la rillette et autres produits et autres rayons sont très présents dessus, mais on a beaucoup de produits végétaux, on a beaucoup d'associations en charge de promouvoir justement ces végétaux, telles que l'association Slow Food, qui sont citées dans cet inventaire. Et puis on a des recettes qui sont normalement emblématiques, telles que la vinette, non, c'est pas la vinette. Voilà, je ne trouve plus la recette emblématique de Touraine, tellement elle est peu présente. Ça va me revenir plus tard. Et puis il y a un certain nombre de pages, naturellement, sur les vins locaux et régionaux qui sont représentés.
Voilà, est-ce que ça a pu donner peut-être aussi sujet à d'âpres discussions pour savoir si tel produit était de telle région ou de telle autre? Peut-être qu'il y a des. Ça doit être intéressant aussi, voire amusant, de voir les combats locaux pour se réclamer de tels produits ou pas.
Oui, alors concernant la rillette, par exemple, entre Le Mans et la Touraine, naturellement, on peut s'amuser à organiser des joutes verbales sur ce sujet, ce qu'on a fait une fois. Maintenant, il n'y a pas de raison de tenter de savoir qui a raison. Aujourd'hui, deux territoires qui ont un même produit. On peut penser à Castelnaudary-Toulouse ou Montauban avec leurs trois cassoulets. Qui a raison entre les trois? On trouvera toujours une petite distinction. distinction de cuisson, d'ingrédients complémentaires qui permettra de montrer que chacun a raison. Le but, c'est comme l'inscription du repas gastronomique des Français à UNESCO, le but n'est pas de montrer que, contrairement à ce qui avait pu être dit à l'époque par certains médias ou politiques, en aucun cas un produit, un territoire a plus de vertus gastronomiques ou un produit est meilleur qu'un autre parce qu'il a un label, parce qu'il a une reconnaissance quelconque. Le but est simplement de montrer qu'il existe et de le faire encore plus connaître afin que l'ensemble de la population puisse diversifier son alimentation et non pas se limiter à manger sans cesse la même chose, des choses qui seront trop affirmées dans les médias.
Voilà, c'est vrai que cet ouvrage est très intéressant pour les personnes qui sont, comment dire, nées dans une région, parce qu'on y retrouve peut-être aussi de ce qu'on peut appeler des madeleines.
Bien sûr, donc le plat que je cherchais depuis tout à l'heure, c'est la bechelle tourangelle.
Voilà, la bechelle, il me semblait, mais je ne sais pas.
Et cette bechelle, qui est une madeleine pour nombre d'habitants tourangeaux, finalement n'est plus assez connu par des nouvelles générations ou par des nouveaux arrivants sur notre territoire, parce qu'on en fait très très peu la promotion. Aujourd'hui, il y a 4-5 restaurants seulement sur la place de Tours qui proposent cette bechelle tourangelle sur leur carte. Et quand on sait que finalement, elle date du début du 19e siècle, où toute la région avait réfléchi ensemble à essayer de créer une recette qui représente le territoire, c'est dommage aujourd'hui de ne plus en profiter. Bon, c'est vrai qu'en termes de production culinaire, en termes de dimension nutritionnelle, elle appartient aussi à l'époque du 19e, une époque riche et qui montrait bien l'opulence de voir bien manger à l'époque.
Et on trouve aussi les fameuses poires tapées, qui sont d'ailleurs difficiles à trouver aussi. Quand même.
Oui, peu de producteurs aujourd'hui font des poires tapées, et c'est peut-être ce qui fait l'illustration, enfin la représentation paradigmatique qu'on peut avoir de la qualité de la poire tapée, c'est sa rareté. Et c'est vrai que c'est difficile de la produire. Quand on voit le travail de main d'œuvre que ça donne, le côté artisanal qu'il faut accepter, que tu aies d'effectuer, donc c'est aussi un geste physique qui est compliqué en termes de production. Et puis la charge de ramassage de pommes pour in fine la peu de quantité de pommes tapées ou poires tapées qu'on peut vendre, c'est vrai que pour les producteurs c'est plus un sacerdoce qu'une industrialisation naturellement.
D'ailleurs, il me semble qu'il y a un producteur de poires tapées qui a, comment dire, comme une convention avec un restaurant situé avenue Gramont, auquel il délivre peut-être pas la totalité de sa production, mais en tout cas, ils ont un lien fort. Comme ça, lui, sur sa carte, met en valeur cette production de poires tapées et le producteur, voilà, ils ont une espèce d'exclusivité entre les deux structures.
Tout restaurateur, j'étais prêt à dire tout bon restaurateur, mais normalement, tout restaurateur a des relations privilégiées avec certains de ses producteurs. Pas avec tous, naturellement, il ne peut pas avoir une relation privilégiée avec son producteur de sucre ou d'autres matières courantes premières. Mais concernant des éléments qui vont être inscrits à la carte, la plupart du temps, les restaurateurs locaux que je connais sur le territoire ont des relations privilégiées, tout à fait.
Je propose de faire une première pause musicale. Kylian, vous m'avez dit, c'est comme Julien, Kylian, voilà, que je me souvienne, excusez-moi. Je propose une première pause musicale et nous allons rester dans notre thème alimentaire. On va écouter une vieillerie, parce que j'aime bien aussi les vieilleries. On va écouter Bourville qui chante les haricots. On se retrouve tout de suite après dans La Méridienne. Vous écoutez Radio Campus Tours.
On doit chanter ce que l'on aime, exalter tout ce qui est beau. C'est pour cela qu'on a un poème. Je vais chanter les haricots. Alors que tout repose encore, dès le premier cocorico, ah qu'il est doux quand vient l'aurore, de voir semer les haricots. Et puis un jour sortant de terre et se dressant toujours plus haut, vers le soleil, vers la lumière, on voit pousser les haricots. Au printemps, la rose était close. En été, le coquelicot. Mais quel spectacle grandiose de voir fleurir les haricots. Plus tard, les paysans de France s'agenouillant, courbant le dos, ont l'air de faire révérence pour mieux cueillir les haricots. Mais ces courbettes hypocrites pressaient de la main du bourreau qui les jetant dans la marmite met à bouillir les haricots. Et lorsque vient leur dernière heure, on les serre autour d'un gigot. Et chaque fois, mon âme pleure, car c'est la fin des haricots.
Radio Campus Tour, vous écoutez La Méridienne et même nous écoutions Bourville qui chantait les haricots. Je suis toujours en studio avec mon invité Kilian Stangel. Voilà, vous représentez l'IEHCA et vous êtes venu nous parler des rencontres François Rabelais qui se tiendront les 22 et 23 novembre 2019 à l'université de Tours, si je ne dis pas de bêtises.
Tout à fait, au Tanneur.
Au Tanneur, voilà. C'est vraiment la place intéressante. Alors, ces fameuses rencontres François Rabelais, c'est la 15e édition.
Tout à fait. Les éditions préalables avaient touché des sujets variés. On a eu une année sur qu'est-ce qu'un bon restaurant, une autre année sur des tendances culinaires, une autre année sur le rapport entre la cuisine et la santé, ou le rapport entre la cuisine et les arts, le territoire, enfin la dimension touristique finalement de la gastronomie, sur l'européanisation de la cuisine française et la nationalisation de la cuisine européenne. Enfin voilà, plein de sujets d'année en année. Et cette année, à la demande de Jean-Michel Blanquer, l'objet est de s'intéresser finalement à l'éducation alimentaire, voir en quoi l'éducation alimentaire pourrait être présente dans les programmes scolaires, voir en quoi elle est déjà présente finalement dans certaines actions pédagogiques, éducatives, par des associations ou tout simplement par les parents, le rôle des parents et le rôle des territoires à observer sur ce sujet.
Alors ce souci, disons, de l'éducation nationale vers l'alimentation, est-ce qu'il est nouveau ou est-ce qu'il existe depuis belle lurette? Ou est-ce qu'il y a un engouement qui s'est plus prononcé ces dernières années?
Oui, il a toujours existé depuis belle lurette, comme vous dites. Dans les années 40, déjà, on avait un ministre qui s'appelait Rostand et qui voulait justement éduquer l'alimentation, éduquer le vin à l'école, même vu que le vin était encore autorisé jusque dans les années 60 et que c'était un élément culturel d'importance. Il avait vraiment valorisé. Il faut savoir que quand on regarde le fameux diplôme de certificat d'études que passaient nos grands-parents ou arrière-grands-parents, quand on observe les diplômes de cette époque, enfin les examens de cette époque, pardon, les épreuves s'appuyaient toutes sur une chose de la vie, une chose du quotidien, une leçon de chose, comme on disait, et que ça soit le français, les mathématiques ou l'histoire ou d'autres disciplines, elles étaient liées à la table, à la production agricole, à la consommation de vin, à l'eau dont on avait besoin de tirer dans un seau pour ramener ça au pichet de la table. Il y avait des notions mathématiques prises en compte justement avec à chaque fois des exemples qui étaient liés à l'alimentation ou à la on va pas dire la nutrition, mais à la satisfaction humaine. Donc on voit que finalement l'alimentation était enseignée indirectement de tout temps et qu'elle elle s'est diluée à notre époque, parce qu'aujourd'hui, dans les programmes scolaires, on enseigne en primaire la pyramide nutritionnelle, c'est-à-dire les nutriments basiques, et on enseigne les quatre saveurs. Donc, à savoir que naturellement, ça fait longtemps que notre société sait que nos goûts ne sont pas limités à quatre saveurs. Nous sommes pluriculturels, et l'umami, cinquième saveur, le piquant, l'astringent, le brûlant, qui sont des saveurs qui appartiennent à d'autres cultures que notre territoire, sont malgré tout des éléments qu'il faut transmettre, qu'il faut faire connaître pour arriver à faire se rapprocher les genres humains. Donc on voit que le sujet alimentaire a commencé d'être promu en primaire, en secondaire on enseigne déjà les marchés économiques autour de l'alimentation ou la géographie en s'appuyant sur des productions, sur la notion de production agricole. Mais malgré tout, la connaissance de notre bienfait culturel et patrimonial alimentaire, le fait que chacun d'entre nous devrait savoir reconnaître un minima d'ingrédients se promenant sur un marché, devrait savoir au minima produire certains gestes culinaires, certains réflexes alimentaires. Je pense que ça devrait être de mise dans notre société que un enfant aujourd'hui apprenne, comme on le faisait dans le temps, en éducation manuelle et technique, en EMT, ce qui a disparu en collège. On devrait apprendre à savoir faire un gâteau à la maison, à savoir se faire cuire un œuf, des pâtes, un minima finalement de survie pour que chacun d'entre nous sache faire évoluer par la suite au courant de sa vie cette survie en compétences, voire en excellence culinaire pour ceux qui le souhaitent, tout en relativisant naturellement sur un sujet très important aujourd'hui qui est la précarité alimentaire, que chacun sache aussi se nourrir financièrement, c'est-à-dire mesurer le coût d'un repas pour pouvoir mesurer finalement le coût de sa vie mensuelle ou annuelle.
Alors au sujet des leçons de cuisine à l'école, il me semble qu'à une époque ça existait, mais que c'était quand même plutôt réservé aux jeunes filles.
Ah oui, là on remonte bien sûr dans d'une époque d'avant la mixité des écoles.
On vous parle d'un temps que les moins de 20 ans.
Naturellement, oui, il y avait les écoles ménagères qui étaient destinées aux jeunes filles ou aux jeunes femmes. Mais bon, ça appartient plus à notre époque. Heureusement, aujourd'hui, nous sommes tous égaux.
Bien sûr, donc supposons qu'un jour, un ministre ait l'idée de remettre des leçons de cuisine. Et pourquoi pas, parce que ça existe dans d'autres pays européens, ces ateliers.
Bien sûr, l'Angleterre enseigne la cuisine au collège.
Tout à fait. Je crois qu'en Allemagne aussi, on trouve.
C'est dans les cours d'après-midi en Allemagne, donc ce n'est pas imposé. C'est dans les cours optionnels.
Mais cela dit, c'est ouvert aussi bien aux filles qu'aux garçons.
Donc bien sûr. Voilà.
Et après, il y a une autre question qui va se poser. C'est comment on va faire coïncider ce souci d'apprendre aux jeunes gens, filles et garçons, à cuisiner avec toutes les normes sanitaires qu'il y a dans les écoles. Alors, il va falloir faire des ateliers répondent à des normes.
Tout à fait, il faut qu'il y ait des espaces de production et d'apprentissage à la cuisine qui puissent accueillir des groupes d'âge, du plus jeune âge aux étudiants les plus âgés. Et pour cela, justement, la Villa Rabelais à l'Institut d'Histoire et Culture de l'Alimentation, la Villa Rabelais a un projet dans le bâtiment du fond, l'ancienne fac de droit, un projet d'un espace culinaire qui viendrait accueillir ces différentes écoles.
Voilà, moi je pensais aussi à faire de la cuisine dans les établissements, en fait, dans l'école. Ça, c'était peut-être possible il y a 20 ans, 30 ans, mais maintenant
Les normes sécuritaires, au-delà des normes sanitaires, les normes sécuritaires ne permettraient pas non plus d'envisager la cuisine. Mais malgré tout, que les normes sanitaires puissent évoluer afin qu'un enseignant puisse apporter 2-3 ingrédients ou des produits pour faire découvrir ce qu'est une courge et la différence par rapport à un concombre ou d'autres cucurbitacées à des enfants de primaire, à une époque naturellement qui est en lien avec la saison, je pense que déjà ça serait une première démarche assez simple et qui ravirait, je pense, autant l'enseignant que les élèves.
Voilà, parce que peut-être qu'on a à une époque évacué l'alimentation, la cuisine des établissements, j'imagine scolaires, mais peut-être aussi à l'hôpital, le service de psychiatrie, parce qu'il y a une époque où les patients pouvaient participer à la confection des repas. Maintenant c'est impossible, sauf atelier, cuisine vraiment séparés à l'extérieur. Tout donc, à fait.
Là, pour des raisons d'hygiène, et si on en revient à la notion d'école, il y a encore très très peu de temps, il y a une quinzaine d'années, je voyais des associations de parents d'élèves qui organisaient des concours de la meilleure tarte tatin pour faire découvrir aux enfants, où les enfants deviennent jury. Sauf qu'aujourd'hui, on n'a plus le droit dans une école de faire goûter à un enfant un élément qui aurait été produit dans une situation ménagère, c'est-à-dire à la maison par une maman. Il faut que ça soit produit uniquement dans un établissement de production scolaire, de production culinaire scolaire. Donc on est finalement pour des raisons de recherche aussi sanitaires qui sont dignes, hein, le but est quand même de sauvegarder la vie de nos enfants, on se met aussi quelquefois des bâtons entre les roues sur l'évolution éducative de nos propres enfants.
Voilà, donc j'attends avec gourmandise comment sera mise en place cette éducation culinaire potentielle dans les écoles, outre le fait de pouvoir emmener une classe à la Villa Rabelais, comme vous l'indiquez, j'en suis curieuse.
Ça va être tout le but justement de ces rencontres François Rabelais, ça va être de débattre sur ce sujet. En aucun cas, là, à Radio Campus, on est en train d'instaurer un futur bulletin officiel. Le but est de donner la parole à tout le monde lors de ces rencontres François Rabelais sur ce sujet, et puis d'écouter aussi ce que va nous expliquer le ministre à ce sujet.
Voilà, puisque, oui, venons-en quand même à ces fameuses rencontres, on peut dire que le ministre sera là pour l'ouverture de la manifestation, hein, le vendredi 22 novembre.
Tout à fait, le ministre, sauf si naturellement il y avait une actualité qui l'empêcherait d'être parmi nous, mais jusqu'à présent le ministre est confirmé comme étant présent. On souhaite qu'il ait le meilleur accueil pour qu'il puisse prendre la parole et nous expliquer les choses, que son accueil ne soit pas totalement gêné afin qu'il ne soit pas obligé de faire demi-tour au bout de 30 secondes. Mais on espère beaucoup en ce moment pour entendre tout ce qu'il aura à nous dire sur ce sujet.
Voilà, donc le programme est dense et le vendredi 22, ça commence dès 8h30 à l'amphithéâtre Télème. 8h30, accueil des participants avec un petit déjeuner qui est proposé par le lycée des métiers Albert Bayet.
Tout à fait.
Qu'on retrouve à l'heure du déjeuner. Alors le lycée Albert Bayet, ça fait quand même des années aussi que vous les associez à ces rencontres.
Il est évident qu'on se doit d'associer les acteurs du territoire, les différents lycées hôteliers qui sont les jeunes pousses de la cuisine de demain. On se doit et on a le plaisir de collaborer avec eux. Fut un temps, on collaborait avec le lycée de Blois. Aujourd'hui, par alternance, on collabore avec le lycée Bayet, le CFA de la ville de Tours, le lycée Notre-Dame-la-Riche pourrait très bien aussi venir à collaborer un jour, mais ils sont pas dispo à ce moment-là, ils ont un grand concours qu'ils organisent. Donc on a suffisamment d'acteurs sur le territoire à valoriser aussi à ces occasions-là.
Voilà, donc ces jeunes gens, ils auront en charge les pauses alimentaires, disons.
Tout à fait, substanter le public. Et puis surtout pouvoir échanger, parce qu'au moment du déjeuner qui se déroule à l'hôtel de ville, on a souvent le public qui est là pour échanger avec les jeunes apprentis ou les jeunes lycéens et écouter finalement leurs attentes, leur situation, comment ils ont pris plaisir à produire ce repas ou à être parmi nous. Et on n'hésite pas, du coup, avec un tout petit mot d'ouverture au moment du déjeuner, à donner le micro au chef de travaux, directeur technique du CFA et du lycée, voire quelquefois à des étudiants pour qu'ils puissent s'exprimer eux-mêmes ou se faire prendre en photo avec une personnalité locale.
Voilà, donc 9h, c'est les mots d'ouverture. Alors là, quand même, il y a tous les... J'allais dire toutes les huiles.
Les personnalités, oui, d'importance, naturellement, mais c'est logique. Hein. Un événement tel que celui-ci ne pourrait pas être organisé sans le conseil régional qui nous accompagne, sans la ville de Tours qui nous accompagne dans nos démarches également, sans le président de l'université qui valide ce qu'on fait. Ces différentes personnalités sont là naturellement, et puis elles ne sont pas toutes inscrites au programme. On peut penser naturellement à la direction régionale des affaires culturelles, on peut penser à l'Institut national de la jeunesse et l'éducation populaire. Ils sont très nombreux finalement, ces acteurs d'importance qui, sans eux, on ne pourrait pas faire naître tous les projets que l'on souhaite faire émerger.
Donc on voit, hein, avec l'importance de toutes ces personnes qui seront là dès l'ouverture de la manifestation, le rayonnement qu'a votre événement, puisque tout le monde y participe. Vous avez quand même beaucoup de partenaires qui sont...
Beaucoup de partenaires, j'ai pas l'impression, quand je vois d'autres événements qui ont une un drapeau complet de labels inscrits. On n'en a pas tant que ça. Les partenaires que je n'ai pas cités, par exemple, c'est Canopée, qui est un partenaire lié à l'éducation nationale. Ceux qui ne sont pas cités en termes de logo, bien sûr, ça pourrait être l'Inspection Générale de l'Éducation Nationale, qui n'hésite pas à ce moment-là à faire venir ses enseignants pour entendre les paroles autour de l'éducation alimentaire. Et puis d'autres acteurs tels que Centre Sciences qui sont là pour valoriser tout ce qui est scientifique. Donc non, j'ai pas l'impression qu'on ait beaucoup de partenaires. Ce sont avant tout des acteurs institutionnels tels que la région ou le ministère de l'Éducation nationale.
Voilà, mais j'entends beaucoup au sens dans cette catégorie, parce qu'après
après tout,
vous pourriez avoir un partenariat avec des structures plus privées et plus commerciales, mais c'est pas le cas.
C'est pas le cas du tout.
Et c'est un choix ou c'est...
Jusqu'à présent, on n'a pas eu de raison. Après, des partenaires privés commerciaux, on peut dire qu'il y en a qui sont présents. On pense à Restoco qui va être présent, qui est un réseau de restauration scolaire. On a beaucoup d'autres structures qui sont des structures commerciales et qui vont être présentes pour apporter aussi leur vision des choses. Maintenant... En termes de partenariat institutionnel, non, on n'a jamais eu de raison d'avoir un partenariat avec une structure privée.
Bien. Alors, à 9h30, c'est l'heure de la table ronde plénière. Alors, est-ce que vous voulez nous dire en quoi ça consiste ?
C'est la table ronde d'ouverture qui vient ouvrir le sujet, finalement. Hein. Elle vient mettre... Les pieds dans le plat, jeter un pavé dans la mare, les images peuvent être nombreuses, et tout de suite elle vient montrer tout ce qui va être décliné par la suite. Par la suite on a une table ronde historique qui elle démontre justement, comme on commençait à l'évoquer tout à l'heure, que l'éducation alimentaire a toujours existé selon les époques et avec des déclinaisons assez variables. Et puis le vendredi après-midi, là, on a un grand nombre de tables rondes en parallèle, ce qu'on appelle les ateliers, pour les distinguer d'un point de vue organisationnel. Ce sont toujours des tables rondes où il faut que les auditeurs viennent choisir finalement le sujet qu'ils ont envie d'entendre débattre, voire de participer au débat. Car chaque table ronde, finalement, dure une heure entre les intervenants et il y a une demi-heure où le public peut poser ses questions ou émettre un avis. Le vendredi après-midi, donc on a tous les sujets qui sont divers et variés. On va parler naturellement des arômes naturels et artificiels. Est-ce qu'ils sont vraiment là pour former le goût de nos enfants ou pour les déformer ? Chacun pourra avoir midi à sa porte sur ce sujet. On va évoquer aussi en quoi finalement le geste de la cuisine ou enfin, les apprentissages des gestes culinaires permettent un éveil à l'enfant, de gagner une identité ou de gagner de nouvelles perceptions ou expériences finalement de son individualité. On va avoir une table ronde aussi très organisationnelle sur l'approvisionnement des cantines, en quoi ça peut être une difficulté, en quoi quelquefois il y a des notions de marché qui sont des embûches pour pouvoir s'approvisionner. On va avoir une table ronde aussi sur les publicités télévisuelles destinées aux enfants. On va essayer de les décoder, montrer en quoi elles sont quelquefois des difficultés aussi pour nos enfants, pour les faire découvrir. Et puis après, on va avoir une table ronde portée sur les fermes pédagogiques, les potagers pédagogiques d'initiative, qui sont des lieux destinés aux écoles pour qu'elles puissent aller découvrir justement une ferme pédagogique ou quelquefois des potagers qui sont à l'intérieur des écoles. On va avoir une enseignante qui va nous expliquer comment elle a mis elle-même en place un potager et comment ça a été accompagné par l'inspection d'académie. Voire par les parents aussi, bien souvent. On va avoir une table ronde très institutionnelle, où là, c'est le ministère de l'Éducation nationale qui vient présenter beaucoup de projets d'établissement qui portent sur l'éducation au goût. Et puis, une autre table ronde, là, qui va être plus tournée vers les familles, voire vers les acteurs satellitaires aux familles. Je pense aux assistantes maternelles, qui sont des relais, des bras armés finalement des familles pour éduquer l'alimentation auprès du plus jeune âge. Là, une assistante maternelle, c'est elle qui aide à la diversité alimentaire, à faire découvrir à l'enfant les premières saveurs, les premiers goûts. Et une assistante maternelle, justement, sera là pour nous expliquer comment elle en a fait son sacerdoce, sa spécialité. Bien sûr, elle fait certainement les autres actions d'une assistante maternelle, mais avant tout, c'est sur ce sujet-là qu'elle gagne ses étoiles, ses galons. Et puis après, on revient à des tables rondes plénières, cette fois-ci, où on entendra Régis Encart, qui est passé ici même à Radio Campus il y a quelque temps, qui nous expliquera en quoi, finalement, une éducation alimentaire est une valeur sûre pour une bonne santé, en quoi elle contribue à l'état de santé arrivé à l'âge adulte si on s'y prend au plus jeune âge. Ce qui est quelque chose, vous allez dire, dans notre esprit d'assez logique, d'assez naturel, mais lui, il va l'expliquer d'un point de vue plus scientifique avec d'autres pédiatres et universitaires du monde de la médecine. Et puis, on arrive à la journée de samedi.
Ah oui, alors avant de se lancer dans samedi, il y a un instant, Angèle, j'ai une question quand même. C'est quoi avoir mauvais goût? Alors, puisqu'on parle de développer le goût, à votre avis, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on dit?
Ah, vous me touchez sur ma sensibilité, c'est mon sujet de thèse.
Ah, ça alors.
Non, le bon goût, malheureusement, pour être très synthétique, c'est quelque chose qui n'existe pas d'un point de vue universel et absolu. C'est quelque chose qui se construit dans une individualité, dans une évolution tout au courant de la vie aussi. Si on prend l'exemple d'un enfant, il va percevoir, là-dessus beaucoup de sociologues sont d'accord, il va percevoir le sucre comme quelque chose qui a bon goût et la mer comme quelque chose qui est de mauvais goût. Alors que c'est assez marrant parce que la saveur amère était une saveur très appréciée au 19e siècle et aujourd'hui elle est déclinée comme une saveur assez négative. Et pour autant, cet enfant, si vous le mettez dans une situation différente, de devoir prendre un médicament, eh bien, la saveur amère est très intense. Il va admettre qu'elle est sans aucun intérêt de plaisir, mais malgré tout, qu'elle est bonne pour sa santé. Donc, que le bon goût, finalement, vient rétribuer un autre paradigme ici d'un bon goût pour la santé. Le bon goût, finalement, c'est quelque chose qui se construit au plus jeune âge, déjà quand on est à l'intérieur du ventre de sa maman, et puis on le construit et on le fait évoluer tout au courant de notre vie, un peu comme la formation, tout simplement parce que le goût du vin, par exemple, certains d'entre nous le préfèrent sucré lorsqu'on découvre le vin, et puis en vieillissant, on commence à apprécier les tanins, à s'éloigner de la franche acidité et à admettre finalement qu'un bon vin peut avoir une autre illustration. Et cela pour beaucoup d'ingrédients, on va admettre quand on est jeune qu'on adore ce qui est gras, ce qui est sucré, et puis là, pour des raisons médicales, eh bien, on va apprendre à apprécier par obligation nutritionnelle, mais même par plaisir au bout d'un moment à apprendre à apprécier des choses beaucoup plus légères, moins grasses et avec des valeurs nutritionnelles différentes. Donc finalement le bon goût est une contextualisation de notre lecture du plaisir et puis aussi une approche très individuelle du plaisir où certains vont estimer que le bon c'est quelque chose qu'ils prennent tout seul, tel que le pot de Nutella ou le carré de chocolat le soir devant la télé et non pas quelque chose qu'on prend en public ou en public on est obligé d'avoir une représentation de ce que l'on mange et qui ne correspond pas systématiquement à un plaisir très intérieur.
La mer a mauvais goût, je pense qu'on peut convoquer les psychanalystes qui nous écoutent.
Ah ben la mer est beaucoup moins appréciée par les enfants que le sucre, dit les études sociologiques dans tous les cas.
Voilà, mais dans la formulation, c'est intéressant. Et c'est vrai que
La mer a mauvais goût, excusez-moi, je n'étais pas sur cette notion psychanalytique, tout à fait.
Et puis c'est vrai que l'idée de le goût sucré, spontané ou induit chez les enfants, ça crée une ambiguïté aussi, parce que si c'est lié au plaisir, à ce qui est bon, ça crée un faux lien affectif. Donc c'est utilisé après en marketing pour vendre des produits. En fait, on met plein de sucre dans les choses parce que ça crée une dépendance. Est-ce que ça renvoie aussi à ce souvenir affectif, est-ce que c'est utilisé?
Alors, il est évident que dans le domaine du goût, il y a la néophobie et le reste, la néophobie avec la fameuse Madeleine de Proust, les néophiles, quant à eux, vont vraiment rechercher les saveurs à la mode. Et je suis d'accord avec vous que du point de vue du marketing, il existe du marketing olfactif aujourd'hui où on nous distribue des fausses odeurs de croissants chauds devant certaines marques de restauration rapide et de croissants très rapides pour attirer le chaland et lui apprendre que tous les matins cette odeur est un plaisir sur son chemin pour aller au boulot ou à l'école et pour essayer de l'appâter à ce qu'il vienne acheter finalement et que cet achat devienne un rituel et une habitude de consommation et une habitude olfactive mélangée. Donc, et d'un point de vue gustatif, maintenant, on est d'accord que certaines marques de hamburgers, par exemple, ont appris finalement, ont enseigné indirectement aux consommateurs à appréhender certaines saveurs pour que ça devienne un rituel. Maintenant, j'ai peut-être le défaut ou la vertu de croire au genre humain pour qu'il ne soit pas dupe et qu'il puisse quand même, tout au courant de sa vie, envisager de découvrir autre chose que ce qui lui est mis à portée de main. Et aujourd'hui, on est dans des territoires qui sont pluriculturels et qui nous permettent d'aller découvrir une cuisine asiatique, une cuisine, quelles que soient ses origines géographiques ou son modèle alimentaire, on peut très bien envisager de manger halal si on n'est pas obligatoirement rattaché à la religion qui en dépend. On peut très bien manger vegan même si découvrir le véganisme même si on n'en a pas l'habitude et je pense que grâce à ces modèles alimentaires et cultures alimentaires à portée de main le goût peut arriver à découvrir une diversité sans être totalement marketé ad vitam aeternam.
Voilà. Que les vendeurs de prémix et de cigarettes aromatisées se le disent. Avant de poursuivre le déroulé du samedi 23 novembre, Kylian Stangel, je vous propose une autre pause musicale, qu'on ait quand même le temps de reprendre notre souffle. Et pour rester dans notre thématique autour de l'alimentation, je propose d'écouter une nouvelle merveille musicale. Nous allons écouter Pâté Impérial. Voilà, de chez Bran. À tout de suite sur Radio Campus Tours, vous écoutez toujours La Méridienne.
C'est dans le brouillard, c'est des vapeurs, je sais pas ce que c'est, je suis tout en sueur.
Il faut équilibrer.
Dans le jasmin, je me sens pas bien. J'aurais des crevettes dans mon fond de plein.
T'as trop poussé sur le bambou. Cuisine chinoise, pas ça du tout.
Cuisine exotique, parfum nostalgique. Resto chic, chic, chic. Mais mange pas trop vite. Le porc au soja, te prends dans ses bras. C'est le nirvana.
Si tu veux tromper, santé bien, j'ai ma chérie.
Pâté impérial.
J'ai envie d'un. J'ai l'impression d'être névrosé. Quand on me regarde, je suis toute troublée.
Thérapeutique, très efficace. Cuisine chinoise te décontracte.
Je suis toute seule, je suis paumée. Je sais plus quoi faire de mes soirs.
Tu vas découvrir la sagesse. Et le saké fini le stress.
Cuisine exotique, ambiance romantique. Mélodie typique, prix pas excessif. Tu vas découvrir les joies du pervers et le grand sourire.
Si tu veux trouver bonheur, viens donc chez nous.
Pâté impérial.
J'ai envie d'un.
Pâté impérial. Pâté impérial.
J'ai besoin d'un.
Pâté impérial.
Merci les nids, les hirondelles. Maintenant je me sens pousser des ailes.
Pour commencer, alcool de riz. Puis en entrée, poulet curry.
Je suis comme un roi, je me sens bien mieux. Je passe aux agents, on va tout en bleu.
Pas abusé, aphrodisiaque. Sinon finir, t'es là.
Cuisine alchimique, serveuse exotique, nous serons pour toi, en mangeant nos gars. Tu vas découvrir, pays du plaisir, amour et yoga.
Si tu veux trouver amour, viens donc chez nous.
Pâté impérial,
j'ai envie d'un.
Pâté impérial,
Saint-Gobain. Tranquille, hein. Vous avez une gâterie, j'ai le droit, non? Les pierres sous-sous, on s'en va parce que...
Impérial sur Radio Campus Tours, c'était Chebran, vous écoutez toujours La Méridienne et mon invité Kylian Stangel nous parle des rencontres, alors attention que je ne dise pas de bêtises, rencontre François Rabelais les 22-23 novembre 2019, salle Télème, et nous déroulions le programme de la manifestation. Peut-être Kylian Stangel que voulait nous dire ce qu'il va se passer le 23 novembre.
Oui, le samedi 23 novembre, toujours à l'amphithéâtre Télème, eh bien on a, pour commencer, une table ronde qui est plutôt destinée, réservée aux enseignants de l'éducation alimentaire, parce que c'est sur les actualités des réformes d'enseignement d'école hôtelière. Donc c'est pas un sujet qui peut toucher vraiment le grand public, raison pour laquelle on l'a mis de 8h à 9h15 afin que le grand public puisse se lever tranquillement à 9h et nous rejoindre à 9h30 pour écouter la première table ronde qui, elle, touche aux marques commerciales. Justement sur le marketing dont on était en train de parler il y a quelques secondes, là on va observer finalement comment le marketing aujourd'hui se construit en termes d'objets, de formes, de colorimétrie dans le domaine alimentaire. Et puis par la suite, on aura une table ronde sur un sujet dont on a largement évoqué depuis midi, c'est la diversité culturelle, justement, en quoi le fait de réunir des enfants autour d'une même table, des enfants, je sais pas jusqu'à quel âge on est un enfant, mais des individus autour d'une table, en quoi ce moment de partage peut devenir un moment d'échange, de diversité culturelle et de construction, pourquoi pas, d'une interculturalité. Par la suite, une autre table ronde le samedi après-midi viendra là être plus sur une notion de psychologie, de linguiste, de psychanalyste et de neurolinguistique. Sur finalement la manière dont s'expriment les enfants autour de l'alimentation et comment ils expriment leur goût, que ça soit par le faciès ou par des mots ou par des gestes. Différents spécialistes des pratiques de la santé viendront justifier ces représentations et ces actions menées par ces enfants. Et puis on terminera par une dernière table ronde le samedi après-midi à 16h qui, elle, est naturellement sur un sujet dont on ne peut pas, qui est essentiel, on ne peut pas passer à côté quand on parle d'éducation alimentaire, c'est les cantines. On verra comment aujourd'hui les cantines construisent leur démarche d'éducation alimentaire, soit par des actions régulières, soit par des programmes complets, et voir comment elles sont accompagnées finalement par les institutions.
Voilà, alors, Kylian Stangel, Stangel, je ne vais pas réussir à dire votre nom, je vous prie de m'excuser. C'est peut-être parce que j'ai moi-même un nom très compliqué, donc ça me donne une excuse. Comment vous arrivez à réunir un public sur ces rencontres François Rabelais? Est-ce qu'il est constant? Parce que comme vous avez une thématique différente tous les ans, comment vous arrivez? Est-ce que vous avez un public constant, intéressé, toujours le même, ou est-ce que ça varie?
Alors, les rencontres François Rabelais font déjà partie du programme national de formation d'éducation nationale, c'est-à-dire que l'éducation nationale crée un catalogue chaque année de formations ponctuelles destinées aux enseignants, quelle que soit leur discipline, et ainsi qu'aux inspecteurs. Et ces rencontres François Rabelais sont dans ce catalogue. Donc on a un certain lot d'enseignants qui viennent de toute la France suivent cette formation. Enfin, ces deux jours finalement de conférences et d'échanges, comme un cycle de formation. Au-delà de cela, nous avons un public d'amateurs avertis du sujet, qu'est la gastronomie culturelle et patrimoniale, qui sont inscrits à notre programmation de la Villa Rabelais. La programmation de la Villa Rabelais, c'est à peu près 70 événements dans l'année, hein, des tables rondes, des conférences, des découvertes d'ouvrages, des cours de cuisine, etc., etc., qui et des dégustations de vin, je l'ai oublié, un public d'amateurs avertis qui ont l'habitude de nous suivre dans cette programmation et qui donc viennent suivre également les rencontres François Rabelais. Et puis on a aussi donc en fonction de la thématique, là une frange de population qui se renouvelle chaque année en fonction du sujet et que l'on découvre et avec qui on est ravis d'échanger.
Il y a des étudiants de l'université François Rabelais, c'est quand même à domicile là, c'est Saltelem. Alors
on en a, oui, mais pas tant que ça. C'est toujours ce qui m'épate un peu, c'est que le vendredi, eh bien, les étudiants ont des cours. Malheureusement, ils ne peuvent pas obligatoirement sortir de leurs cours pour venir suivre ces rencontres François Rabelais. Et puis le samedi, ils ont certainement des occupations personnelles. Mais malgré tout, ils sont les bienvenus. Hein. Il suffit de s'inscrire sur le site de l'IUHCA. C'est une inscription naturellement gratuite. Au-delà du repas du midi, qui lui est de 25 euros, parce qu'il est dans un cadre assez particulier. Mais qu'il n'est pas obligatoire ce repas, chacun peut aller se substanter là où il le souhaite. Et puis on est bien tous au chaud dans l'amphithéâtre Thelem, et chaque étudiant peut prendre la parole pour évoquer aussi sa représentation, son sujet, ses soucis sur le sujet qui nous préoccupe. Et on sait que cette année, la précarité alimentaire est un sujet de prédilection qui est malheureux, mais qui pourrait être l'occasion justement pour des étudiants de venir demander le micro pour s'exprimer sur ce sujet et pourquoi pas pour lancer un débat qui pourra être pris une prochaine année dans le cadre des rencontres François Rabelais 2020, 2021 ou 2022.
Voilà, j'espère que vous nous entendez les étudiants. Alors, cette émission touche déjà à sa fin. Kilian Stangel, chargé de mission IUHCA, coordinateur des rencontres François Rabelais. Merci à vous d'être venu jusqu'à Radio Campus Hauts-de-Lyon. Peut-être qu'on peut rappeler une dernière fois le site sur lequel on peut retrouver toutes ces informations.
Tout à fait, c'est sur le site iehca.eu et sur la page d'accueil, vous trouverez toutes les informations qui concernent cet événement ainsi que les autres événements.
Est-ce qu'on peut vous trouver aussi sur les réseaux sociaux ?
Oh oui, bien sûr, on est sur Facebook, on est sur Twitter, donc vous nous trouverez partout.
Voilà, eh bien merci à vous, je vous souhaite une très bonne journée.
Merci, au revoir.